en action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
Bienvenue sur notre plateau, le plateau Action Logement Groupe. Vous savez, comme chaque année, Action Logement est présent sur le Salon des maires et des collectivités locales, au plus près des élus pour accompagner transition et mutation des territoires. Sur ce plateau, nous accueillons donc des élus, des partenaires et des filiales pour échanger sur les grands enjeux locaux qui font votre quotidien. L'occasion aussi pour nous de faire mieux découvrir notre mission d'utilité sociale en lien avec nos engagements RSE et nos ambitions 2030. Et pour cette séquence, je vous propose de partir pas si loin que ça, puisqu'on va aller à Draveil dans l'Essonne. Avec vous, Sylvie Doncarly, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Draveil.
Oui, tout à fait.
Et avec vous, sur ce table ronde et sur ce plateau, un certain nombre de parties prenantes qui ont contribué chacune et chacun sur le projet dont on va parler ensemble. Il y a à côté de vous Xavier Quesnel-Pierre, le directeur opérationnel investissement de Séquence.
Bonjour.
Et puis autour de la table, Catel Le Guillou, la directrice générale de la foncière de transformation immobilière.
Bonjour.
Et Damien Charrère, le directeur territorial d'EFH Construction. Merci à tous les quatre.
Bonjour.
On va faire quelque chose d'un peu choral, puisqu'on va parler ensemble d'un projet. Mais je me tourne d'abord vers vous, Madame Doncarly, peut-être pour nous présenter un petit peu mieux votre commune et ses enjeux, notamment évidemment en termes de logement, de réhabilitation ou de transformation de projet, ce qui va être le cas pour cette école transformée en logement.
Oui, tout à fait. Déjà, merci à tous de nous accueillir. Je vous prie d'excuser l'absence de M. le maire que je vais remplacer aujourd'hui en qualité d'adjointe à l'urbanisme. Alors, Draveil, c'est une commune de 1600 hectares, sur laquelle, effectivement, il y a une politique engagée depuis quelques années de logement, mais sur des constructions plutôt maîtrisées et qualitatives, avec un patrimoine bâti assez important sur lequel on s'est engagé plutôt à préserver ou réhabiliter. C'est justement le cas sur ce bâtiment qui était effectivement une ancienne école dans un site privilégié, puisqu'en fait c'est un site qui jouxte l'île de loisirs qui se trouve face à une réserve ornithologique préservée. Donc l'île de loisirs, c'est 240 hectares en bordure de Seine. Voilà. Le site est également proche des transports en commun, puisqu'il est à quelques mètres aussi du RER de Juvisy. Alors on avait une ancienne école qui était en friche, qui devait être restaurée, qu'on a mis en vente, sur laquelle on a cherché des partenaires. Et ça n'a pas été simple parce que c'était un site qui, effectivement, cumulait plusieurs contraintes, à savoir que ce site était classé en site patrimonial remarquable. Il y avait des prescriptions de la part de nous, de la commune, et donc qui étaient sous avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, sur lequel il a fallu trouver un équilibre entre l'esthétique, la maîtrise, notamment en matière de logement, puisqu'en fait c'est également un site qui se trouve en entrée de ville. Voilà. Donc
il y avait beaucoup de contraintes, mais ce qui est intéressant, et c'est ce dont on va parler, d'ailleurs hein, c'est un peu l'objet de cette discussion, c'est qu'évidemment c'est un territoire, votre commune, en banlieue, en Île-de-France, etc., dans lequel les tensions sur le logement sont fortes, d'où aussi parfois la nécessité d'innovation, d'agilité, c'est-à-dire de transformer un bâtiment pour changer son usage quelque part, avec, comme vous l'avez rappelé, de fortes contraintes, puisque c'est une école art déco, années 30, etc. Et je me tourne vers vous, du coup, Damien Charrère, pour EFH Construction, peut-être pour nous raconter un petit peu à la fois à quoi ressemblait cette école et ce que vous avez prévu comme projet, ce qui a été peut-être le plus difficile à mettre en œuvre dans ce large partenariat public-privé.
En effet, oui. Donc, pour commencer, on remercie bien entendu la ville qui est initialement le porteur du projet. Alors, moi, j'aime pas le mot promoteur immobilier. J'aime bien nous définir comme porteur de projet. Donc, sur un projet comme celui-ci, on pourrait se définir comme co-porteur du projet. On aime, c'est un peu dans l'ADN d'EFH Immobilier, les projets complexes, que ce soit des projets multiproduits, que ce soit des projets techniquement compliqués à réaliser, des réhabilitations lourdes, des choses comme ça. Et le défi qui nous avait été donné par la ville de travailler sur un bâti existant avec effectivement beaucoup d'histoires des générations d'écoliers qui sont passés par là, etc. Ça nous motive, ça nous anime. C'est intéressant parce que ça donne aussi du sens à notre métier. Et pour toutes ces raisons, on est très heureux aujourd'hui d'avoir l'opportunité de transformer une école en logement.
Il y avait un double défi, quelque part même presque un triple défi, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension culturelle, historique, patrimoniale. Il y avait aussi la nécessité de prévoir des équipements nouvelle génération, durables, qui soient favorables pour tout ce qui est rénovation. Et comme vous le racontez à l'instant, la transformation d'usage, c'était un peu un 3-en-1 quelque part.
Tout à fait. Alors effectivement, c'est un projet monté en partenariat, comme on le disait à l'instant. On est sur un secteur plan masse, donc qui dit plan masse dit que le projet a été initialement aussi conçu bien avant qu'on arrive. Et effectivement, il faut mixer les matériaux anciens, les nouveaux matériaux. On est sur des pompes à chaleur, donc on est sur des énergies renouvelables du moment. Donc beaucoup de choses qui s'inscrivent et qui sont des caractéristiques et des contraintes à intégrer. Mais encore une fois, c'est ça qui est remarquable et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est content de pouvoir avoir l'opportunité de faire ce projet. Et bien évidemment de le partager, on en parlera peut-être après aussi parce que là on est sur l'amont mais sur l'aval aussi avec donc FTI et Séquence, puisque évidemment on peut toujours être très fier du projet qu'on produit, mais s'il n'y a personne derrière et qu'il n'y a pas d'appétence,
voilà. J'allais dire il faut aussi que ça serve, que ce soit rempli, qu'il y ait les populations qui conviennent, qu'on trouve un certain nombre de personnes pour rentrer dans ces logements. Et justement c'est aussi peut-être là qu'intervient Séquence dans j'allais dire son expertise en matière de gestion locative et de développement de logements sociaux pour garantir qu'il y avait une offre de logement abordable et qu'on pouvait avoir un équilibre. Je crois que c'est souvent un des maîtres mots des élus, c'est trouver cet équilibre, y compris d'habitation. Quel a été votre rôle dans ce projet et comment vous l'avez vécu ?
Écoutez, tout à fait, on recherche effectivement un équilibre dans la population qu'on vient mettre et amener à Draveil. On a été sollicité initialement donc, par EFAG et évidemment la ville de Draveil avec qui nous avons des relations plutôt très saines et très bonnes. Je remercie aujourd'hui Madame Doncarli et M. Le Père pour ces relations. On est un des meilleurs principaux sur la ville de Draveil avec près de 800 logements sur lesquels on entretient un parc social, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des logements intermédiaires. Et c'est tout à fait dans ce sujet-là qu'on vient sur ce projet. Donc pour amener une programmation plutôt adaptée au lieu, travailler avec la ville, travailler avec EFAG, initialement donc sur du PLS, donc du coup plutôt Social Plus et de l'intermédiaire, pour pouvoir amener une offre de logement abordable et à prix maîtrisé sur ce projet. Donc le but étant effectivement d'apporter une réponse forte à la crise du logement qui nous touche aujourd'hui. Donc on est venu sur ce type de projet. Où la charge foncière reste quand même assez importante. Et on l'avait tout d'abord monté en direct avec EFAG pour une acquisition en VFA, donc une vente sur plan. Mais l'acquisition initiale s'est montrée un peu compliquée à monter et à programmer d'un point de vue bilan financier uniquement. Et c'est là donc que vient la force du groupe Action Logement et des synergies qu'on peut trouver aujourd'hui, donc, notamment avec la FTI. Où donc on a pu, nous en tant que Séquence et bailleur, apporter l'ingénierie au projet et s'appuyer sur la FTI pour pouvoir continuer à créer de la ville sans vraiment avoir les impacts sur le tissu urbain. Je parle d'impact carbone, on parle de Loisanne par exemple. Et c'est là vraiment où on peut voir la force de frappe du groupe Action Logement, où on a nous, bailleurs, cette ingénierie financière. Et le groupe FTI, la puissance financière qu'ils peuvent amener aujourd'hui.
Mais ça nous fait une transition parfaite, parce qu'effectivement, il faut aussi pouvoir financer l'ensemble de ces opérations. Et je suppose que le montage était particulièrement complexe. Je me tourne vers vous, Cadel Le Guillou. Vous êtes donc la directrice générale de la foncière de transformation immobilière. Quelle a été l'innovation du groupe sur ce montage financier, pour le coup ?
Le groupe s'est montré innovant au sens où il est venu, si vous voulez. Les partenaires qui sont là sont des partenaires historiques de la FTI. Dès que nous sommes nés, ils nous ont proposé des projets. Et donc, ils ont l'habitude de nos pratiques. Nos pratiques résident en l'acquisition, si vous voulez, de fonciers ou de bâtiments obsolètes. en vue de les démembrer pour proposer des programmes à dominante résidentielle. Alors ce projet, généralement nous intervenons en amont des projets, mais là nous sommes intervenus en aval parce que le projet avait plein de qualités. D'abord il y avait une ville qui avait une ambition architecturale, une ambition urbaine. Il y avait un très beau permis développé par l'agence AOR et puis avec Eiffage Immobilier. Il y avait de la mixité programmatique, comme l'a dit Xavier, du social, de l'intermédiaire, de l'accession. Et donc énormément de possibilités et une préservation du bâti, puisqu'il y avait une partie réhabilité, une forte volonté des opérateurs à maintenir ce patrimoine et densifier pour offrir plus de logements. Donc effectivement, tellement de qualité que même si nous sommes intervenus en amont, nous sommes très vite intéressés au projet. Nous l'avons étudié en novembre 2023 et nous l'avons donc tous signé en novembre 2024. Donc félicitations à tous et merci. Nous avons donc acquis, nous avons derrière démembré, c'est-à-dire que le bailleur aujourd'hui fait réaliser les travaux par Eiffage Immobilier, puis il exploitera pendant une durée de 62 ans. Au cours duquel il va, dans le cadre d'un bail, seulement nous payer la moitié de la charge foncière. Et pendant ce temps-là, donc, des gens pourront habiter Draveil avec plaisir jusqu'à ce que la FTI, au bout des 62 ans, récupère l'actif.
Donc c'est ce qu'on appelle un bail à construction, c'est ça ?
Exactement.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, outre le partenariat très réussi, et visiblement ça s'est bien passé, c'était aussi que, je me tourne de nouveau vers vous, pour ce qui était de votre politique, la mise en place sur la ville de Draveil, il y avait à la fois la notion d'ajouter une pièce, je vais dire, au parcours résidentiel, mais aussi de travailler sur un bâtiment qui rentrait avec toutes les dernières normes environnementales, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment sur ces enjeux. Peut-être que vous nous en reparlerez un peu, mais c'était aussi pour vous, dans le choix, une composante importante, garder le patrimoine, augmenter la possibilité du parcours résidentiel et en même temps faire en sorte qu'on ait des bâtiments aux dernières normes.
Oui, absolument. En fait, c'est vraiment ça, hein, la clé du projet. On est quasiment sur une réhabilitation. Il y a effectivement un bâtiment qui sera neuf. Mais l'implantation des bâtiments existants, parce qu'effectivement, c'est pour ça que d'un point de vue, et là je remercie toutes les équipes qui sont autour de cette table, on a pu sortir le projet. Il y avait effectivement des frais en termes de pollution, de remise aux normes, puisqu'effectivement, on est juste à côté de la Seine, on ne pouvait pas non plus creuser. Enfin, c'était un projet qui techniquement était complexe. C'était un projet qui, d'un point de vue architectural, et là merci à Eric Aour, l'architecte qu'on a rencontré avec Eiffage, qui a trouvé une harmonie entre effectivement ce bâtiment et qui a eu une idée de bâtir un peu bateau croisé. Enfin, il a un style vraiment particulier, ce bâtiment. Je ne sais pas si on pourra projeter quelques images. Donc c'est vraiment la convergence en fait de toutes ces qualités qui a permis de sortir le projet avec, comme vous l'avez dit au début, une charge foncière, parce que avec nos communes, on a effectivement la vie des domaines. On ne peut pas non plus y échapper. Et il fallait qu'on trouve, et puis évidemment, les nouvelles normes maintenant, c'est quelque chose, c'est indiscutable, évidemment.
Eh bien, écoutez, c'était un peu ça. Vous voulez rajouter quelque chose sur les normes?
Non, mais simplement, effectivement, confirmer que nos métiers aujourd'hui sont de plus en plus complexes. On parle en amont, en aval. En aval, donc effectivement, on détricote pour trouver la bonne solution. Et aujourd'hui, on l'a trouvée et c'est tant mieux. Ça permet de réaliser le projet. En amont, on l'a dit, hein, on a beaucoup d'intervenants avec qui on travaille, avec les architectes des bâtiments de France, avec les directions départementales, parce qu'on est aussi en zone plan de prévention risque inondation. Donc toutes ces contraintes qu'il faut comme ça emmagasiner. Et je finirai peut-être, en tout cas pour ma part, sur une petite anecdote, parce que comme on a dit aussi tout à l'heure, on a de la mixité, donc on a aussi une partie accession au détail. Et un jour où j'étais en visite sur la bulle de vente, il y a un monsieur qui frappe à la porte et je me dis, bon, il s'intéresse à un appartement, il va peut-être être un futur acquéreur. Et il vient me voir et il me dit, monsieur, j'étais dans cette école dans les années 70 et je voudrais savoir si lors de la construction, on pourra avoir la visite du chantier pour pouvoir voir la classe où j'étais. Et voilà, il y a comme ça une sorte d'histoire sur ce projet et une sorte de legs un peu que nous font les riverains en disant voilà, faites-nous quelque chose de beau. Ici, on y a vécu des choses et on veut que ce souvenir perdure.
Mais c'est aussi ça, je pense, un des fils rouges un peu de l'action, souvent d'Action Logement, c'est aussi cet ancrage territorial et cette adaptation aux spécificités de chaque territoire. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous parler de ce beau modèle de partenariat public-privé. Je rappelle que le podcast sera retrouvé sur Radio Territoria, Radio Immo, sur le LinkedIn d'Action Logement. Merci, bonne journée.
Merci à vous.
Merci.
En action pour le logement abordable et durable, à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.